RCF. Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, notre mode d'écriture a un tant soit peu évolué avec des phrases entrecoupées de smiley, de lol ou de MDR. Et de tous, c'est peut-être le fameux lol qui prend le plus de place car fréquemment, il vient ponctuer nos nombreux messages, ce qui pour certains lecteurs sont de vrais rebutoirs, presque autant que pour moi, l'écriture inclusive. Mais la vraie question n'est pas lol ou pas lol, la vraie question c'est comment ponctuer une phrase que l'on veut ironique. Car sinon, outre la tournure verbalisée qui peut laisser planer l'idée de l'ironie, comment est-il possible de marquer dans cette phrase « ce discours était passionnant » la notion d'ironie, sinon en y rajoutant le fameux « lol » ou « MDR » Et en furetant dans les arcanes de l'internet, eh bien, je me suis aperçu qu'il existait une ponctuation qui s'appelait le point d'ironie. Sa première apparition, on la doit à Marcelin Jobard, propriétaire du Courrier belge, qui utilise dans un de ses articles 11 octobre 1841 un signe typographique de son invention en forme de pic qu'il appelle point d'ironie. Le signe qui est aujourd'hui proposé et que l'on retrouve sur Wikipédia ressemble à une forme de zigzag vertical avec un point en dessous, une graphie que l'on doit au poète français Alcantère de Brahms et à Alphonse Allais, maître de l'ironie par excellence, afin de prier le lecteur de poser le point d'ironie si ingénieusement préconisé par le poète quelque temps auparavant. Il fut par la suite repris par Hervé Bazin, puis par Agnès B. en 1997 dans son périodique d'art Point d'ironie. Dans cette période un peu mouvementée où l'on conteste beaucoup et où l'ironie peut poindre, eh bien je pose une question à vous, auditeurs, académiciens, ministres de la culture, et à vous toutes et tous qui nous écoutez. Faut-il, oui ou non, réintroduire le point d'ironie afin que nos emails puissent être compris par nos collaborateurs, nos amis, nos familles, et pourquoi pas les dirigeants, ministres et autres hommes politiques? Comprendre que cette phrase que l'on renvoie est ironique et ainsi supprimer définitivement le LOL et le MDR. Pour cela, faut-il un référendum comme les retraites le souhaiteraient? Faut-il une pétition? Faut-il descendre dans la rue et faire grève, saisir l'Académie française? J'attends vos réponses, vos suggestions sur Twitter, hashtag écosolu ou point ironie. En attendant, bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions, 12h-13h sur RCF ou alors en podcast, hein, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter quand vous voulez, à l'endroit où vous voulez, au moment où vous voulez, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous aimez l'écho des solutions. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir toucher de nouveaux auditeurs qui ont envie de découvrir tous ces acteurs et ces actrices du changement qui composent la richesse de notre territoire en France. Cette semaine, eh bien, ce n'est pas en France que je vous emmène, je vous emmène plutôt en Arménie, puisque en partenariat avec la CCIFA, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, eh bien, on a décidé de vous faire découvrir les leviers de l'Arménie, les leviers économiques pour investir là-bas. Pourquoi est-ce qu'il fait bon vivre économiquement en Arménie? Est-ce qu'il est bon de faire du business là-bas? Eh bien, c'est ce qu'on verra avec nos invités d'ici une petite quinzaine de minutes. On retrouvera aussi bien évidemment Maxime Dupont qui dans un Max Déco nous invitera à découvrir le chat GPT, une intelligence artificielle qui va nous mettre, nous journalistes, au chômage. Et Pierre Collignon dans sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, lui nous fera découvrir ou nous reparlera à nouveau du sens du travail par rapport au phénomène d'actualité dont nous parlons tous les jours en ce moment qui est la retraite. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien, nous permettront de découvrir une Arménienne installée à Marseille qui a décidé d'upcycler vos vieilles baskets. Upcycler, ça veut dire simplement restaurer, rénover, reprendre vos vieilles baskets pour en faire des neuves. C'est ce qu'on verra avec Catherine Moradian qui est d'ailleurs la lauréate du premier prix lancé pour le 30e anniversaire par la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Et puis nous, on commence comme chaque semaine, hein, avec l'invité l'invité éco de la semaine. On va parler d'un forum pour les métiers, forum au féminin pour les métiers scientifiques et techniques. Et c'est la déléguée générale de l'association Elle Bouge qui organise ce forum qui nous en parle. Elle est notre invitée éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec Amel Kefif, qui est la directrice générale de l'association Elle Bouge. Bonjour Amel.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. L'association Elle Bouge, c'est une association qui a été créée et qui a pour vocation de déconstruire un peu les stéréotypes, aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes, pour leur permettre d'avoir une carrière, on va dire, à égalité des chances. C'est ça un petit peu l'idée de l'association Elle Bouge, Amel ?
Oui, entre autres, l'objectif de l'association Elle Bouge, qui existe depuis 2005, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles, collégiennes, lycéennes et étudiantes, pour les filières et carrières de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciennes. Mmh. Le constat qu'on a fait il y a déjà 17 ans avec les DRH de groupes industriels, et on parle d'industrie à l'époque qui était stéréotypée masculine et qu'ils sont encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, c'était de comprendre pourquoi les filles ne se dirigent pas vers eux. Et le constat, c'est qu'elles ont elles sont ancrées dans des stéréotypes conscients, inconscients, induits. Et aujourd'hui, avec nos 9000 bénévoles, dont 7500 marraines, donc les marraines qui sont des femmes de l'industrie, des femmes qui ont toutes un background académique de sciences, de tech, d'ingé, techno également, et qui vont témoigner auprès des jeunes filles de leur carrière, de leurs choix qu'elles ont fait, pourquoi elles se sont dirigées vers ces études, vers ces secteurs d'activité, et combien leur carrière est épanouissante. Alors, combien le secteur d'activité est passionnant.
Alors, est-ce que depuis 2005, ça bouge ?
Alors ça bouge, oui, l'association porte absolument bien son nom. On impacte tous les ans plus de 40 000 jeunes filles autour de 700 événements qui sont des rencontres, soit directement sur les lieux d'entreprise ou dans des salons professionnels, ou alors les marraines se dirigent directement dans les établissements. On a 300 partenariats aujourd'hui, un agrément de l'éducation nationale, des partenariats institutionnels.
Et on voit bien cette progression justement dans les entreprises, vos partenaires industriels, scientifiques, ingénierie, etc. Disent, alors, oui, en effet, on a plus de femmes aujourd'hui qui viennent frapper à la porte et qui sont formées à ces métiers-là.
Alors, il y en a, oui, alors il y a une évolution, c'est certain, mais c'est pas une évolution qui va à la vitesse que chacun le souhaiterait pour qu'il y ait plus de mixité dans les entreprises. On est encore très très loin de la parité. C'est encore parfois difficile dans certains secteurs de trouver des femmes ou des filles formées, notamment pour toute la partie souvent maintenance qui jouit encore d'une mauvaise image de travail ardu, alors que même que les technologies pour aider physiquement ou simplifier les tâches ont été développées. Donc certaines industries souffrent encore d'une non-féminisation, mais pour beaucoup, il y a malgré tout, même si elle est légère, une évolution.
Eh bien tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. On parlait la semaine dernière de la question de l'emploi chez les seniors. Est-ce que c'est une question que vous abordez aussi chez Elle Bouge, cette part de femmes qui sont un peu sur le carreau, comme les hommes d'ailleurs, à partir de 45 ans jusqu'à 64 ans, âge de la retraite, peut-être même plus tôt d'ailleurs, j'en sais rien.
Alors, on la traite de manière indirecte, puisque nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher dès le plus jeune âge, et on a même lancé Elle Bouge en primaire, les jeunes filles pour leur dire de continuer les maths, continuer les sciences, parce qu'en les continuant, elles s'offrent un nombre de possibilités professionnelles assez illimitées au sortir des études supérieures, qu'on soit en bac pro et jusqu'au bac plus 5, plus 8. Et donc, ce sont nos marraines. Donc, on a des marraines de tout âge, des jeunes employés comme des personnes seniors, donc 55 et plus, et qui vont justement permettre aux filles de leur dire « moi j'ai eu une carrière où j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs secteurs d'activité, et aujourd'hui mon employabilité est assurée grâce à cela, dans des secteurs qui sont en demande de talents féminins ».
Alors quand on va sur votre site internet, on voit toute la richesse de l'association, toutes les propositions. Il y en a une qui va avoir lieu fin janvier. janvier, début fin janvier, début février, c'est le forum Réseau et Carrière. Qu'est-ce qui va se passer et à qui est-il destiné, aux jeunes femmes qui terminent leurs études et qui sortent des études et qui vont aller vers le premier emploi?
Absolument, entre autres. Donc, c'est le forum Réseau et Carrière au féminin. C'est la 11e édition. C'est un forum cette année qui, pour la première fois, sera et digital et physique. C'est un forum qui propose du recrutement destiné aux femmes à 100%, donc avec des offres d'emploi féminisées, avec des noms également d'emploi féminisés. Et on s'adresse aux étudiantes qui recherchent un stage et une alternance, aux jeunes diplômés, aux femmes diplômées qui souhaiteraient changer d'activité ou de métier, et également aux femmes en conversion professionnelle et notamment sur des fonctions de technicienne. C'est un forum aussi qui va leur permettre de rencontrer des marraines, elles bougent, qui vont leur parler de leur métier, de leur secteur d'activité. On a également prévu un bar à CV, un photographe qui viendra prendre des photos pour les profils LinkedIn de toutes ces jeunes femmes. On a des ateliers RH qui leur permettront de pouvoir comprendre comment accéder à une carrière à l'international, comment négocier son premier salaire. Ça, c'est négocier son salaire tout court d'ailleurs, parce que ça, c'est un élément très très important pour les femmes, de savoir négocier leur salaire. On a également des ateliers par secteur d'activité, c'est quoi être une femme dans le secteur du transport, de l'énergie, de l'aérospatial, de la défense. Voilà, donc tous ces sujets.
Et alors, on s'inscrit, comment on fait pour vous rejoindre? On s'inscrit sur Internet, c'est quoi? Il y a des délais pour tout ça?
Alors, les entreprises se sont déjà inscrites, les offres d'emploi sont déjà en ligne, donc on a plus de 2000 offres d'emploi postées. C'est sur notre site www.elbouge.com, forum réseau et carrière au féminin. Si vous êtes candidate, vous vous inscrivez en ligne ou en digital, ou les deux, vous pouvez tout à fait profiter des deux. Vous vous inscrivez également dans les ateliers pour pouvoir
échanger.
C'est complètement gratuit pour les candidates. C'est l'assurance d'avoir un échange, d'avoir accès à des offres d'emploi où on les recherche directement.
Amel Kefif, merci beaucoup d'avoir été notre invitée écho de cette semaine. Peut-être qu'on refera une émission justement, on n'en a pas fait depuis longtemps, sur la question de l'emploi au féminin, et promis, on ne la fera pas le 8 mars.
S'il vous plaît.
Ça ne veut pas dire que le 8 mars, on ne traitera pas de la question, mais on ne la fera pas le 8 mars, je vous le promets. Merci beaucoup. On continue tout de suite dans l'écho des solutions avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est Pierre Collignon que l'on retrouve comme toutes les semaines. Merci beaucoup Amel, à très bientôt, au revoir.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve donc Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors cette semaine, Pierre, vous voulez à nouveau revenir sur la réforme des retraites. Qu'y a-t-il de nouveau pour que vous reveniez sur ce sujet qui est largement commenté après la journée de mobilisation qui a été un vrai succès la semaine dernière?
Précisément, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a eu cette formidable mobilisation la semaine dernière. Mobilisation qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de manifestants au cri de « la retraite avant la retraite » ou encore « les prisonniers du boulot font pas de vieux os » ou bien celle-ci qui m'a particulièrement inspiré, le travail nuit à la santé après 60 ans.
Alors en entendant cela, qu'est-ce que ça a fait réagir chez vous, Pierre?
J'ai pas pu m'empêcher de penser à Sœur André, vous savez, la doyenne de l'humanité, morte le 17 janvier dernier et âgée de 118 ans. Officiellement, elle avait arrêté de travailler à la fin des années 70 et elle était née en 1904. Alors je vous laisse faire le calcul. En réalité, elle a ensuite passé 30 ans dans un EHPAD. Elle reconnaissait avoir levé le pied vers ses 108 ans, excusez du peu. Et quand on l'interrogeait pour savoir quel était son secret, elle répondait « j'ai toujours travaillé ».
Alors tous ceux qui ont connu Sœur André disent d'ailleurs que c'était précisément sa foi et son sens des autres qui expliquaient sa vitalité et son goût pour le travail.
Oui, je pense que c'est une indication. Le travail, quand il est tourné vers le service des autres et qu'il est don de soi, semble ne plus trop compter le nombre des années. Il n'est probablement pas moins fatigant, mais il a un sens et une raison d'être. Ce qui m'inspire deux réflexions que je voudrais vous partager dans cette chronique. La première, c'est l'obligation pour tous les entrepreneurs, les dirigeants et les managers d'entreprise de redonner du sens au travail de leurs collaborateurs. On en a déjà parlé ici plusieurs fois, trop de salariés ont perdu le goût du travail car ils n'en comprennent plus le sens. On vit dans une sorte d'immédiateté qui est devenue la norme et qui nous conduit sans cesse à accélérer les rythmes, à enchaîner les tâches au point qu'elle finit par ne plus avoir aucun sens.
Alors le sens de son travail serait lié, selon vous Pierre, à la contemplation de son travail?
Oui, je le crois profondément. Aujourd'hui, nous avons trop peu l'occasion d'apprécier notre travail, de profiter du plaisir de l'œuvre accomplie, de la joie du moment présent. Impossible de se retourner sur le travail achevé. Il faut tout de suite enclencher sur une autre mission, se fixer d'autres objectifs, se lancer dans de nouveaux défis. Bref, c'est compliqué.
Alors, la joie peut-elle supprimer cette fameuse pénibilité du travail ? N'est-ce pas finalement un petit peu utopique tout ça ?
Non, elle ne peut pas évidemment supprimer la pénibilité du travail, mais elle peut à tout le moins lui donner un sens. Vous savez, j'aime beaucoup cette citation de Saint-Exupéry qui dans Terre des Hommes nous dit « Celui qui donne un coup de pioche », bon, elle est célèbre cette citation, hein, « Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche, et le coup de pioche du bagnard, qui humilie le bagnard, n'est pas le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. » Et il ajoute « Le bagne ne réside point où les coups de pioche sont donnés. » Eh bien, c'est ma deuxième réflexion qui est probablement, allez, on va dire la moins audible ou la moins facile à dire. Il y a dans le travail une dimension sacrifielle. Notre travail peut aussi être une offrande. Certes, il est pénible de travailler 2 ans de plus, mais si ces 2 années supplémentaires sont nécessaires pour assurer à la collectivité le maintien d'un régime de retraite, est-ce que ce n'est pas finalement un sacrifice utile ? Je suis toujours frappé par l'argumentation très individualiste des réponses à cette question de l'âge de la retraite. Oui, il faut protéger les plus faibles et tenir compte des circonstances exceptionnelles qu'ils ont vécues, mais je suis aussi convaincu que la solidarité oblige à certains sacrifices et que ces sacrifices peuvent aussi passer par la prolongation du temps de travail avant de prendre sa retraite. En fait, tout le monde doit faire des efforts. Les entreprises pour redonner du sens au travail de leurs collaborateurs, mais les salariés aussi qui doivent accepter de regarder au-delà de leur seul intérêt personnel en recherchant la justice pour eux aussi. Mais en recherchant aussi à pratiquer la solidarité.
Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette deuxième partie de réflexion sur la question des retraites et plus particulièrement sur la question du travail et du sens du travail. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions avec André Manoukian, ce qui nous permettra d'introduire notre dossier de l'écho des solutions où on évoquera la question de l'économie en Arménie en partenariat avec la CCIFA, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Merci encore Pierre, à la semaine prochaine.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. D'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère, à cela il n'est rien à faire.
C'était Rosemary Stanley et André Manoukian au piano, la chanson de Prévert et Cosma. On ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions autour de cette question. Fait-il bon investir et faire du business en Arménie ?
L'écho des solutions, RCF.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, un dossier qui est consacré à l'économie arménienne en partenariat avec la CCI Franco-Arménienne. arménienne, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Le 14 janvier dernier, cette CCI franco-arménienne, la CCIFA pour la cité, fêtait ses 30 ans et c'est pour cela que nous avons décidé de faire une émission sur ce pays, parfois connu, parfois méconnu. Et j'ai le plaisir d'avoir deux invités avec moi. Tout d'abord, Ovig Madzekian. J'essaye toujours de bien le prononcer, Madzekian. Bonjour Ovig.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes donc directeur général d'Amundi Agba, qui est la banque qui gère les fonds de pension dans le pays, Arménie. On verra avec vous justement, qui avait une fine connaissance de l'économie arménienne, de quoi il en retourne, en quoi ce pays peut être attractif, moins attractif, quelle est sa place dans la géopolitique, etc. etc. Puis à côté de vous, Armen Madzakenian, qui est donc le président de la CCIFA, qui est avec nous depuis l'Arménie, justement. Bonjour Armen.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup avec vous. On va évoquer justement ces 30 ans hein, de la CCIFA. Vous aviez une belle soirée d'anniversaire où un concours avait été lancé avec une remise de prix. D'ailleurs, on retrouvera la lauréate hein, de ce concours dans nos 7 minutes pour changer le monde, tout de suite après la chronique de Maxime Dupont. Armen, je vais quand même commencer avec vous. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette période d'anniversaire qui n'est pas totalement terminée, puisque finalement, votre soirée d'anniversaire n'était que les prémices d'une année de festivités et d'événements?
C'est exactement ça, Patrick. En fait, pour organiser le 30e anniversaire, ça nous a pris quasiment un an pour le faire. On a voulu vraiment marquer le coup. On a invité vraiment des personnalités dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, des artistes, dans le domaine de l'art et de l'industrie. Nous avons eu vraiment la chance d'avoir Rodolphe Saadé, qui est le président du groupe CMA-CGM, qui était présent à la soirée. On a eu plus de 450 invités convives dans tous ces domaines. Mmh. Et surtout, on a mis vraiment en honneur les lauréates du concours qui nous a demandé quand même 5 mois de participation très actif, de faire travailler tout le conseil d'administration. Et je pense que c'était une belle
réussite. Et vous me disiez que vous aviez été un petit peu dépassé par le succès de ce concours. Plus de 120 dossiers, je crois, vous avez reçus pour finalement une dizaine de prix remis au total.
Tout à fait. En fait, au début, on pensait qu'on allait avoir une cinquantaine de demandes et de dossiers. Et au final, avec 5 mois de participation, on a eu 120 dossiers en ligne. Tous les dossiers n'étaient pas, bien sûr, complets. Il y avait une dizaine d'auto-entrepreneurs. Et surtout, on était vraiment surpris aussi. C'était la deuxième surprise. Il y avait plus de 70% de femmes qui ont participé à ce concours. On était vraiment très heureux et ravis par ça.
Et ce qui fait que d'ailleurs, votre lauréate qui a reçu un prix de 5000 euros est une femme, c'est Catherine Mouradian, qu'on recevra d'ailleurs dans les 7 minutes pour changer le monde. Est-ce que vous avez le sentiment, en discutant avec les uns, avec les autres, que l'Arménie est une terre d'investissement pour les Français? On le verra peut-être avec vous, Ovig, après le partenaire économique de l'Arménie n'est pas naturellement l'Europe et particulièrement la France. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent un petit peu, qu'on regarde peut-être l'Arménie comme un territoire qui est à, on va dire à conquérir, mais quoique, si à conquérir économiquement et où il est bon de faire du business?
Sans aucun doute. L'Arménie reste toujours une terre attractive, hein, un pays attractif à tous les niveaux. Malgré la grande tension avec les deux voisins, pour un entrepreneur, s'il ne prend pas les risques, il n'y aura pas forcément d'opportunité. D'ailleurs, en chinois, on dit, c'est le même mot, hein, l'opportunité, le risque représente le même mot. Et c'est vraiment le moment d'y aller.
Et c'est le moment d'y aller. Ovig, alors vous êtes un fin connaisseur de l'économie arménienne, d'une part parce que vous êtes certainement arménien vous-même, que vous vivez entre les deux pays, la France et l'Arménie. Vous êtes en France en ce moment et surtout parce que vous gérez les fonds de pension arméniens et qu'il faut être un fin observateur de cette économie. Comment se porte aujourd'hui l'économie arménienne dans une Europe en tension, tant sur le plan géopolitique que sur le plan économique et sur le plan énergétique, ce qui fait beaucoup pour un petit pays qui est aux confins de tout ça?
Oui, alors juste une petite précision, nous ne sommes pas une banque, nous sommes gérant d'actifs.
Pardon, gérant d'actifs.
Qui est quand même importante, mais il y a pas de souci. Donc en effet, alors on a une position qui est privilégiée en Arménie, puisque pour observer justement l'économie, comme vous le disiez très justement, on gère l'argent des futurs retraités arméniens, et pour ce faire, eh bien, on doit avoir donc des perspectives précises sur l'environnement économique. Et paradoxalement, c'est vrai que autant l'Europe et globalement dans le monde se porte difficilement, avec bien sûr l'inflation qui
galope,
qui a suivi le Covid, qui galope, et puis la guerre en Ukraine, l'Arménie peut paraître en effet comme un havre de paix, un îlot un peu qui hors du monde, qui en fait a bénéficié malgré elle peut-être de cet effet guerre en Ukraine. Car l'Arménie a terminé l'année 2022 dans des très bonnes conditions économiques, et ça peut paraître en effet paradoxal pour un petit pays comme ça, mais la croissance, tous les chiffres sont très macroéconomiques, sont très positifs. Quand on regarde la croissance l'année dernière en Arménie, elle s'est élevée à plus 13%, 13% de croissance.
Alors pourquoi alors que tous les pays sont plutôt dans une forme de décroissance, on est plutôt à annoncer des chiffres, des taux de croissance qui sont à moins de deux chiffres, parfois des chiffres qui peuvent friser le zéro, voire le négatif. Comment se fait-il que l'Arménie, qui est un pays géopolitiquement instable, on le sait aujourd'hui, les frontières du Haut-Karabakh, elles sont quand même un petit peu malmené par l'Azerbaïdjan, comment ce pays devient, si je le comprends un peu comme ça, un peu comme l'or et la monnaie refuge, l'Arménie serait un peu l'état refuge qui permettrait de générer des actifs dans ce pays-là et du travail?
Alors, une petite précision aussi, disons que le gouvernement arménien est stable, c'est depuis la révolution de 2018, en fait, il y a une continuité dans le pouvoir qui a été élu démocratiquement. Le Premier ministre Nikol Pachinian a donc été élu suite à cette révolution et réélu suite à la guerre des 44 jours. Donc, il y a une forme de stabilité. Alors, enfin, en change, vous aviez raison, il y a une instabilité au niveau des frontières, notamment avec l'Azerbaïdjan. Donc, comment on peut s'expliquer cette exception un petit peu arménienne? Eh bien, c'est dû notamment à l'afflux massif de Russes suite à la guerre. Alors, avant 2022, avant la guerre, la croissance de l'Arménie était déjà très honorable, puisqu'on tournait autour de plus 5, plus 6% par an. Comparativement à ce qu'on a dans les pays développés, c'est tout à fait honorable. Mais là, il y a eu un coup d'accélérateur l'année dernière, donc avec cet afflux massif de Russes, à partir du mois de, je dirais, mars-avril. Donc, on a vu s'installer en Arménie des milliers d'entreprises russes, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. On parle de plus de 3000 entreprises russes qui sont venues s'inscrire en Arménie pour continuer de pouvoir travailler avec l'Occident, avec l'Europe et les États-Unis. On parle d'un chiffre entre 70 000 et 100 000 Russes qui sont venus également s'installer dans le pays et pour une durée indéterminée. Et ce sont des gens qui ont de fortes qualifications. Ce sont des entreprises qui continuent de travailler donc avec l'Europe et les États-Unis, donc qui amènent en même temps les devises dans le pays. Les flux financiers vers l'Arménie ont augmenté de façon colossale. En septembre, vous avez eu plus d'argent entre en Arménie que sur toute l'année précédente. Vous voyez un petit peu les échelles, les ordres de grandeur. Et cette vague, en fait, a apporté notamment des gens très qualifiés avec des hauts revenus, des salaires de 2, 3, 4 000 euros par mois, ce qui pour l'Arménie est beaucoup. Le salaire moyen est dehors de 500 euros par mois en Arménie. Donc vous voyez un petit peu le contraste.
Ce qui crée quand même des difficultés. Il y a une forte fracture, je ne vais pas dire une forte fracture. Finalement, il y a une classe finalement très riche, une classe très pauvre et finalement une classe moyenne quasiment inexistante en Arménie.
La classe moyenne s'est développée. Il y a une vraie classe moyenne qui s'est développée en Arménie maintenant. Hein. On n'est plus dans ce qui pouvait être le cas il y a une vingtaine d'années, hein, mais une classe moyenne depuis une bonne dizaine d'années s'est développée progressivement, notamment les personnes qui travaillent dans le secteur financier ou le secteur des nouvelles technologies qui est en forte croissance en Arménie, qui est très important. Donc il y a une véritable classe moyenne. Donc on n'est plus dans ce schéma, je dirais, de pays en voie de développement avec quelques très très riches et la plus grande majorité très pauvre. On n'est plus dans ce schéma. Donc l'Arménie a progressé de ce point de vue-là. En revanche, c'est vrai que cet afflux massif de Russes a eu des conséquences positives, mais également quelques conséquences négatives, forcément, notamment en termes d'inflation.
L'inflation est flambée immobilière, je suppose.
Exactement. Les prix maintenant à Yerevan, c'est quasiment les prix de Paris pour la location, parce que l'Arménie n'était pas prête en si peu de temps à accueillir autant de monde avec un tel pouvoir d'achat. Les prix, vous voulez louer quelque chose en centre-ville, c'est en effet quasiment les prix de Paris. Pareil sur les bureaux, là aussi, parce que ce sont des entreprises qui sont venues, qui ont cherché s'installer, donc le prix de l'immobilier
a forcément
augmenté. Là aussi, vous avez doublé en quelques semaines. Donc, ça a eu des conséquences également négatives de ce point de vue-là. Mais en revanche, alors l'inflation, finalement, en Arménie, ressort autour de 8,5%.
Ce qui est relativement maîtrisé par rapport à l'Europe où on est à un chiffre
exactement.
De...
Enfin, on est en dessous de la zone euro. Donc, c'est pas si dramatique que ça. Dans le même temps, ces flux ont eu un effet qui est assez aussi notable, c'est que la devise arménienne s'est renforcée considérablement. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la devise qui, dans le monde, a le plus progressé par rapport au dollar.
Environ 20%, 30%.
Ouais, 20% de progression en quelques mois par rapport au dollar. Alors que dans le monde des pays émergents, au contraire, les devises ont eu tendance, en fait, les pays émergents à se détériorer, à se déprécier face au dollar, notamment avec la politique de la Banque centrale américaine qui a relevé massivement ses taux. Donc ça a porté le dollar, sauf en Arménie, il y a d'autres pays aussi qui ont vu ces flux arriver. Par exemple, je pense à la Géorgie qui a vu sa devise également progresser. Mais l'Arménie, très fortement, alors, par rapport au dollar et l'euro également.
Alors, quels sont aujourd'hui les grands secteurs économiques qui font vivre l'Arménie? L'industrie peut-être un petit peu, l'industrie textile. Il y a d'autres éléments intéressants pour l'économie arménienne.
Je dirais que les principaux secteurs qui tirent la croissance de l'Arménie. Alors, on va d'abord parler de la construction. La construction en Arménie est très dynamique. Vous voyez partout, il y a des vannes quand vous promenez. Vous voyez des grands bâtiments en train de se construire et qui s'achèvent et d'autres en effet qui prennent le relais. Donc le bâtiment est un secteur qui tire l'activité, la croissance du pays, avec notamment maintenant un réel besoin parce qu'il pouvait y avoir pas mal de logements vacants. Maintenant, c'est plus le cas. Tout part très vite. Ensuite, l'autre secteur important est l'agriculture. L'agriculture en Arménie occupe une grande partie également de la population arménienne, qui doit encore se moderniser, mais en revanche, elle a un marché naturel qui est la Russie, et une grosse partie de sa production, en fait, est directement exportée vers la Russie, sachant que les produits arméniens, les produits agricoles sont très appréciés par leur qualité. Beaucoup de ces produits sont ce qu'on peut dire nous en Europe bio, dans la mesure où les engrais coûtent cher.
Ce que vous voulez dire, c'est comme ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de faire du bio parce que de toute manière, c'est le seul moyen pour eux de produire.
Exactement. Ça peut
paraître paradoxal, il ne faut pas qu'ils s'enrichissent trop.
et donc, c'est des produits qui sont finalement de très bonne qualité et qui pourraient, en fait, sur un marché européen, se vendre plutôt cher, sachant que le coût de la main-d'œuvre est très bon marché en Arménie. Il n'y a pas de charge sociale en même temps. Donc là encore, ça contribue à maintenir des prix qui sont tout à fait raisonnables, avec une qualité qui est vraiment remarquable. Là, on parle toujours, vous savez, de l'histoire des tomates en France, aucun goût. Là, je peux vous dire, quand vous mangez les tomates en Arménie, elles sont pleines, elles sont goûteuses. C'est vraiment extraordinaire.
Ça me donne envie d'aller en Arménie. Et quels sont les autres secteurs? Il y a le textile aussi, le tourisme, les nouvelles technologies.
Exactement. Alors le textile était une industrie qui, déjà à l'époque soviétique, était importante en Arménie. Et donc, le gouvernement arménien cherche à relancer ce secteur d'activité. Toujours là, vous voyez, on est sur un secteur d'activité qui nécessite en fait une main d'œuvre qui est relativement bon marché, ce qui est le cas encore en Arménie. Donc, il y a une industrie textile qui s'est développée et qui continue de progresser et d'exporter vers l'Europe. Alors, même si actuellement il y a quelques difficultés parce que le DRAM s'est renforcé contre les devises fortes, hein, euro et dollar,
bah oui.
N'empêche que c'est, on peut penser que c'est temporaire, mais cette activité, en effet, est importante et le gouvernement cherche à le développer. L'autre secteur, vous l'aviez évoqué, c'est le tourisme. Et là encore, il y a un potentiel incroyable sur le tourisme dans la mesure où l'Arménie est un pays qui est très sûr. On parlait tout à l'heure de ce contexte géopolitique difficile. En revanche, à Yerevan, vous le ressentez pas, même dans les provinces, vous le ressentez pas. Et il y a une histoire, c'est un pays qui est multimillénaire. Il y a en effet de la vieille pierre. C'est un tourisme culturel vert qui se développe et qui a encore un potentiel incroyable de développement. D'autant plus que maintenant vous avez pas mal de compagnies maintenant low cost qui desservent
l'Arménie, absolument. Ouais.
Et voilà, et avec des prix qui sont tout à fait attractifs maintenant pour partir là-bas.
Alors, et puis il y a les nouvelles technologies.
Juste, voilà, pour terminer sur les secteurs, parce que c'est certainement le plus stratégique, c'est les nouvelles technologies.
Ouais,
peut-être qu'Armen pourra en parler comme il est dans ce secteur-là.
Justement, Armen, je voulais revenir vers vous en préparant cette émission avec Ovig. On avait dit autant la France a des liens très resserrés culturellement avec l'Arménie, mais économiquement c'est pas si évident. Finalement, on n'est pas à la hauteur du lien culturel au niveau du lien économique. Comment est-ce que vous, en tant que président de la CCIFA, vous allez convaincre des Français, des entrepreneurs français ou des entrepreneurs arméniens, mais surtout des entrepreneurs français, d'aller investir en Arménie parce qu'il y a peut-être des marchés à prendre.
Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Arménie est très francophile. Dès qu'un Français arrive en Arménie, je peux vous garantir que toutes les portes s'ouvrent. Vous avez déjà le grand sourire sur
les lèvres.
Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment palpable et on le ressent partout. C'est vrai que en Arménie, ils sont russophones et anglophones. Et peut-être que la première barrière, ça peut être la langue. Malgré tout, il faut pas oublier que la France, avec sa présence, avec une grande université qui s'appelle UFAR, c'est l'université française en Arménie, qui développe plus de 2000 étudiants par an. Donc, c'est quand même une force pour la France. Ça peut être aussi une porte d'ouverture pour les entreprises françaises, donc si jamais ils souhaitent investir en Arménie. L'avantage dans le domaine de l'informatique, c'est que la langue de business et la langue de programmation, c'est anglais, et ça peut être aussi un avantage pour les sociétés françaises qui souhaitent investir en Arménie. Chose que d'ailleurs j'ai fait exactement ça il y a plus de 20 ans. Et on y est arrivé et ça marche très bien.
Et quand on parle de nouvelles technologies, on parle de quoi ? Parce que ça peut être soit de la production d'éléments de nouvelles technologies, de la carte informatique, mais ça peut être aussi des développeurs. On sait combien l'Inde a fait son succès sur ses développeurs indiens où on exportait le travail de programmation dans des pays émergents et moins chers.
Exactement. NVIDIA, qui fabrique des cartes graphiques, s'est installée en Arménie. Mais vraiment, le plus gros marché, c'est dans le domaine du développement informatique, développement des applications mobiles, développement dans le domaine de l'intelligence artificielle et depuis quelques années, avec notamment SoftConstruct, dans le domaine de blockchain, paiement en ligne, paiement sécurisé, dans le domaine de NFT. Il y a de plus en plus de structures en Arménie qui se spécialisent là-dedans. Et c'est un vrai marché à prendre.
Quand avec la CCIFA, vous faites ce qu'on appelle une learning expedition, je traduis pour les auditeurs d'RCF, c'est-à-dire un voyage d'apprentissage et que vous voulez séduire des Français, c'est quoi le voyage type ? Qu'est-ce que vous leur montrez de l'Arménie pour leur dire finalement, venez investir ici, venez nous faire travailler, venez faire travailler les Arméniens, il y a du potentiel. Comment est-ce que vous construisez un voyage pour ces entreprises ?
Alors, le rôle de la Chambre de commerce franco-arménienne, c'est d'accompagner ces sociétés. On a un rôle de facilitateur. Donc, on organise un voyage minimum 3 jours jusqu'à 5 jours, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on organise le transport, on s'occupe de l'hébergement et après, on organise tous les rendez-vous qu'il faut, aussi bien administratifs, création juridique, dans le domaine de création de comptes.
Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un projet d'implantation là-bas ou est-ce que c'est des gens qui veulent découvrir les dynamiques économiques que vous emmenez là-bas ?
Alors, il faut déjà que l'étude existe. Donc, on les accompagne déjà ces structures depuis la France. Mmh. On étudie avec eux. Si c'est juste un projet de le faire, je pense que ça ne sert à rien de perdre autant de temps et d'investissement. Par contre, si c'est vraiment un projet abouti, organisation d'un, la mise en place d'une filiale de la société existante en Arménie, l'organisation de mettre une équipe de développement en Arménie, l'organisation de créer une usine en Arménie, ce sont sur le, des choses, des projets intéressants sur lesquels on les accompagne mmh, mmh. du début jusqu'à la fin. Mmh.
Quand ces entrepreneurs découvrent un pays comme l'Arménie, qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils l'ont découvert, qu'ils y ont émis un premier pied ?
Comme j'ai dit, vraiment, premier approche, c'est le côté sécuritaire. C'est le côté, ils sont à l'aise parce que la loi arménienne s'est calquée quand même malgré tout à la loi napoléonienne. Après, il s'est rajouté beaucoup de copier-coller de lois américaines ou toute autre chose. Mais les structures des entreprises sont assez proches à la forme juridique française. Mmh. Après, c'est vraiment la facilité. La vie, elle est très facile en Arménie. Mmh. Les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Le transport, le taxi coûte quasiment 2 euros ou 3 euros d'un point A à un point B. Mmh. Les prises de rendez-vous auprès des banques se fait en ligne et on a en moins de 48 heures, on peut avoir un rendez-vous avec la direction et faire toutes les démarches administratives. Mmh. Et en moins d'une semaine, on peut créer une société. Mmh. Malgré tout, administrativement, ils sont en avance. Mais il faut être accompagné par des structures, par des sociétés qui ont un pied en Arménie.
Ils sont un peu comme certains pays baltes. Ils sont en train de faire un saut technologique. Ovik, vous confirmez, vous qui travaillez dans les deux pays en permanence et particulièrement dans le monde bancaire, qui est dans le monde de la finance et de la gestion d'actifs, qui est un monde quand même qui est très très régulé quand même.
Oui, en effet. Et d'ailleurs, je pense que l'une des institutions les plus respectées en Arménie, c'est la Banque centrale d'Arménie, qui est le régulateur du marché financier, hein, les banques ou les gérants d'actifs. Et il y a une véritable expertise hein, qui existe et qui est très respecté en Arménie. Et on a la chance de travailler avec la Banque centrale. Et quand je dis la chance, c'est parce qu'en fait, il y a un niveau d'expertise et ils sont tout à fait aussi pragmatiques et cherchent en fait à apporter des solutions pour permettre justement le développement du secteur et en même temps le développement de l'économie. Mmh. Donc en effet, c'est très appréciable de travailler avec avec ces personnes-là. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les administrations, hein, mais ce n'est pas propre à l'Arménie. On est bien placé en France pour le savoir.
Bien sûr.
Mais je voulais juste revenir aussi sur la possibilité de la France en fait de travailler avec l'Arménie. C'est en effet juste incroyable de voir à quel point on est peu présent. La France est peu présente en Arménie au niveau économique. Quand on voit que les liens politiques, les liens culturels sont à des niveaux stratosphériques, quand je regarde là, vous voyez, l'année dernière, au niveau des exportations de l'Arménie, la France n'était même pas dans le top 10 des pays qui pouvaient importer des produits d'Arménie. Et dans les exportations de la France vers l'Arménie, la France est huitième pays. Alors, le premier partenaire reste la Russie dans les deux cas, puisqu'en gros, un tiers des échanges, importations et exportations de l'Arménie se fait avec la Russie.
Mais qui est le voisin de quelque part aussi.
Oui, c'est logique, c'est le marché naturel. Mais en revanche, sur les pays, vous voyez, la France est devancée par l'Italie, par l'Allemagne, par les Pays-Bas, la Géorgie qui est frontalière.
C'est notre côté intellectuel et latin. On est plus culturel que commerçant.
Exactement, totalement. Et alors, sur le côté culturel, il n'y a aucun problème. Sur que la France est mise en avant. Mais comme le rappelait tout à l'heure Almen, c'est qu'il y a pourtant, une vision de la France qui est très positive, un a priori qui est très positif, et l'UFAR qui est quand même la plus grande université française à l'étranger, hein, qui est basée en Arménie, et tous les ans vous avez des cadres en fait qui sortent de cette université qui sont francophiles et francophones pour beaucoup d'entre eux, et c'est un atout qui est considérable qui n'est pas du tout exploité.
Il y a encore une marge de manœuvre absolument énorme.
Il faut le faire.
Allez, dernière question très rapidement parce qu'il nous reste pas vraiment très 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 peu de temps. Ovig, comment vous voyez l'Arménie dans 10 ans? Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment, vu sa position stratégique disputée par de nombreux pays qui l'entourent, où est-ce que vous voyez l'Arménie dans 10 ou 15 ans? Vous la voyez vraiment comme un pays plus qu'émergent, un pays qui a pris sa place économiquement dans une région un peu instable en permanence?
Alors oui, je pense que l'Arménie a de réels atouts. Alors sa situation géographique, qui aujourd'hui peut paraître en effet difficile, reste malgré tout un atout, car elle est au carrefour en fait de grands flux commerciaux. Donc ça, c'est
est-ce qu'elle pourrait devenir finalement un peu la Suisse européenne, c'est-à-dire ce pays du trajet commercial, de la route du commerce, en gardant finalement une sorte d'autonomie, de neutralité dans un secteur qui bouge?
Alors la Suisse, alors, peut-être pas dans 10 ans, mais en tout cas, elle peut en prendre le chemin. Elle a les ressources, je pense, de le faire, les ressources notamment intellectuelles, puisqu'il y a une population qui est bien éduquée, qui doit continuer de se former, et notamment en essayant d'importer les meilleures pratiques de l'étranger. Mmh. Ça, les capacités. Il y a tout ce qu'il faut sur place en termes de ressources aussi, je dirais, naturelles, et notamment le tourisme, il y a un véritable atout. Mmh. Donc l'Arménie, peut-être que je la vois dans 10 ans, je la vois comme un pays en fait qui va continuer sa croissance malgré les risques géopolitiques. Je vois pas un effondrement de l'Arménie, les risques sont là. Oui. Mais en revanche, un développement qui se poursuit, et en effet, la Suisse peut devenir un modèle
économique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités du dossier de l'Écho des Solutions. Armen, très très rapidement, on va retrouver Catherine Moradian dans quelques instants. C'est la lauréate. Qu'est-ce qu'on peut dire de Catherine très très rapidement, puisqu'elle est lauréate du prix que vous aviez lancé pour le 30e anniversaire de la CCIFA?
Bah juste, Catherine, il faut continuer avec ta force et le dynamisme que tu as, tu ne peux que réussir.
Eh ben voilà, merci beaucoup donc à tous les deux. On se retrouve très très rapidement pour un prochain dossier de l'Écho des Solutions. Enfin, très rapidement, c'est dans une semaine. D'ici là, on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique hebdomadaire Max Déco. On parlait d'intelligence artificielle. Eh bien, je crois qu'il va nous évoquer le chat GPT. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Lui, il l'a testé pour sa chronique.
Maxime Dupont.
Voilà, il est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco. Il est là, il est avec nous. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, Maxime, vous avez cédé à la tentation de chat GPT. Dites-nous en plus.
Oui Patrick, voilà 3 mois que le phénomène chat GPT, ce prodigieux outil d'intelligence artificielle qui répond à toutes les questions que vous vous posez en allant piocher dans les milliards d'informations du web qu'il a ingérées puis digérées, fait parler de lui. Et 3 mois que je résiste à la tentation de lui demander d'écrire pour moi une chronique. Mais pour savoir si j'ai un avenir en tant que chroniqueur dans votre émission, il fallait bien que je me mesure à la bête, et c'est ce que j'ai fait cette semaine.
C'est-à-dire, dites-nous en plus, Maxime.
Eh bien, actu oblige, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chronique sur les manifestations en France.
Et alors,
après, je vais vous la lire.
Alors, on vous écoute.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent légitimées à faire entendre leur voix sur les problèmes sociaux, politiques et économiques qu'elles pensent négligés par leurs dirigeants et qui importent pour leur communauté. Et les rues de France sont le lieu où cette lutte est amplifiée. Depuis des années déjà, les habitants des villes se sont unis pour organiser des manifestations pour défendre leurs droits, leurs libertés, se réunissant pour protester contre des injustices et inégalités. Ces derniers mois, une vague de manifestations sans précédent s'est abattue sur les principales villes françaises et la participation citoyenne à ces mouvements était forte. Des causes variées ont été représentées, la dénonciation des violences policières, l'opposition au décret du gouvernement ou bien le soutien aux travailleurs essentiels et à leurs conditions de travail défendues pour la première fois par une communauté disparate. Ces mouvements de protestation font preuve que les Français prennent leurs responsabilités dans la lutte pour une meilleure société. Cependant, la participation à ces manifestations est un sujet controversé que plusieurs contestent, car même si les activités du mouvement sont largement non violentes, les manifestations impliquent encore des risques. Les mesures de sécurité peuvent être difficiles à mettre en œuvre et les autorités inquiètent à propos de ces violences qui peuvent survenir à ces occasions. La vigilance est préconisée et même lorsque ces mouvements sont pacifiques, leur impact sur la communauté reste souvent incertain. Malgré ces inquiétudes, la participation à la vie politique est toujours encouragée et les manifestants se montrent déterminés à faire entendre leur voix. Les manifestations permettent aux individus de se rappeler que même lorsque leurs points de vue sont minoritaires, Leur participation active est toujours appréciée et crédible. Ces mouvements de rue rappellent aux dirigeants qu'une meilleure société est possible si les gens se mobilisent pour la créer.
C'est pas mal, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors oui, moi je trouve ça pas mal. Honnêtement, je trouve ça pas mal pour un bot qui a répondu en 2 secondes à ma question. Et puis je me dis que cette chronique est aussi porteuse de bonnes nouvelles. Alors d'abord, elle ne ressemble en rien à un pamphlet au ton agressif dans un sens ou dans un autre, pamphlet ou agressivité dont nous abreuvent réseaux sociaux et chaînes d'information en continu. Mmh. Ensuite, je pense que vous serez d'accord, la langue écrite est correcte, voire soutenue.
Oui, c'est plutôt pas mal, ouais, tout à fait.
Oui, c'est une jolie dissertation de Sciences Po. Et enfin, et c'est là vraiment, je pense, la meilleure nouvelle, on dirait quand même un vieux robinet d'eau tiède avec des contenus bien moyennés, un ton bien lisse et aucune prise de parti. Chouette. Il reste donc sans doute peut-être une place pour les chroniqueurs un peu moins lisses, moins moyennés.
Il faudrait peut-être essayer de faire rentrer dans ChatGPT des notions ironie, sérieux, intello, pour voir ce qu'il pourrait faire plus tard. En tout cas, merci beaucoup Maxime pour cette chronique innovante autour de ChatGPT. Nous, on continue avec quelque chose qui est un petit peu moins innovant, mais tout aussi essentiel pour la planète. On retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Ce sont les ateliers Maradian qui sont avec nous, ou comment on peut upcycler et recycler nos baskets et nos sneakers. C'est ce qu'on voit tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Et on est avec Catherine Moradian. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Donc après, mais moi je vais très très bien, surtout qu'on va évoquer avec vous votre activité professionnelle. Comme on le disait juste à la fin du dossier de l'écho des solutions avec Armen, vous êtes la toute jeune lauréate du prix CCIFA qui a été remis le 14 janvier dernier. Pour votre marque Yuji Moradian, qui est une marque dédiée à l'upcycling, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le terme, c'est-à-dire la reprise de vieux objets que l'on remet au goût du jour, mais l'upcycling de sneakers et de baskets. Quand j'ai dit ça, j'ai certainement pas tout dit, Catherine Moradian. Vous êtes versée depuis longtemps dans le monde de la chaussure.
C'est exactement ça. Alors, c'est mon papa qui était cordonnier et monteur de chaussures et qui nous a tous appris, en tout cas, à utiliser ses mains dans ce domaine-là. Mmh. Et puis, par la suite, en grandissant, j'ai été repérée par une marque qui est Pierre Cardin. Et ce fut un tremplin. Mmh.
Ouais. Ça veut dire quoi que votre père vous a appris? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez en CAP, les mercredis après-midi, vous passez avec vos frères, vos sœurs, vous passiez des heures à l'atelier à apprendre à monter des chaussures sur mesure?
C'est ça. Alors mes parents, ils viennent d'ailleurs, en fait.
Ils sont arméniens d'origine?
D'origine arménienne, mais ils ne sont pas nés en Arménie, mes parents.
Oui.
Et du coup, eux, c'était leur main qui leur a permis leur savoir-faire d'en arriver là. Donc pour lui, c'était normal de transmettre ça. Mmh. Et puis, il fallait aussi un petit peu l'aider, hein, parce que financièrement, on n'était pas non plus...
Voilà, c'est ça. Il fallait apporter un petit coup de main à l'atelier pour pouvoir produire les chaussures qui ont été commandées. Et vous avez décidé d'en faire votre métier. Donc, vous avez été repéré par Pierre Cardin. Vous avez créé l'atelier Moradian qui fait de la chaussure sur mesure. Et comment est venue cette idée d'upcycler, de recycler, de remettre au goût du jour des sneakers, Catherine?
Eh bien, c'est quand je me suis rendu compte que l'atelier Moradian plaisait, le savoir-faire épatait certaines personnes. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse les choses plus sérieusement. J'ai fait une étude de marché. Je me suis rendu compte qu'en France, on jette 9 paires de chaussures par minute et qu'il existe très peu de solutions pour les revaloriser, du coup. Mmh. Puis, je me suis penchée sur ce sujet. Et il y a aussi un autre sujet qui valide ce marché, c'est que la basket est en train de monter, la sneakers en croissance, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer des événements où on pourrait jeter sa basket tout en se renseignant sur ce qu'elle devient par la suite. Et avec Yuji, revaloriser ça.
Ça veut dire quoi faire le suivi? Ça veut dire qu'il y a un QR code, il y a une puce dans la basket qui permet de suivre à partir du moment où on l'a acheté dans le container, de suivre
Alors,
sa basket.
Non. Mais c'est une idée incroyable que vous donnez là. Mais en fait, dans un premier temps, moi, pourquoi j'aimerais faire des événements où on vient jeter ses sneakers? C'est parce que je voudrais pas laisser une boîte quelque part et que sans renseignement, je vais mettre une fiche. On va expliquer où est-ce que ça va, qui est-ce qui le fait et pourquoi. Mmh. Et par la suite, avec Yuji, on expliquera que la réparation de votre basket ou la basket que vous venez d'acheter a été récupérée là et le chemin était celui-là.
Mmh. Alors, comment on restaure une basket? Parce qu'il y en a certaines. Alors, on sait aujourd'hui que ce sont des ustensiles de mode. Hein. La basket, c'est un peu, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais c'est un peu comme une boucle d'oreille, c'est un peu comme un sac à main, c'est un peu comme une paire de lunettes. Souvent, on l'a sorti à sa tenue. Est-ce que ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on récupère des baskets qui ont été très peu utilisées?
Alors, pas forcément. Parce que si on ne prend pas la semelle, il y a d'autres pièces qui pourraient être
réutilisées,
exploitées. Mmh. Voilà. On peut aussi en faire d'autres accessoires que de la sneakers, un porte-clé, un portefeuille, enfin voilà. Mmh. Donc le but, c'est de... Là, je suis en train de faire une phase de test, si vous voulez, avec l'UPE 13 à Marseille. Mmh. Donc on récupère... En fait, on voudrait rentrer en relation avec une entreprise d'insertion sociale pour, dans un premier temps, récupérer, faire un premier tri. Et puis après, ce sera à destination des prisons, parce que j'estime que là-bas,
on
leur apporte un métier en plus. Quoi, voilà. Il y a 250 métiers dans une chaussure, il y a quand même beaucoup d'étapes. Et du coup, là-bas, on ferait un espèce de tri encore plus poussé, on démonte les paires et on en fait comme une casse auto après par la suite.
C'est ça.
Et nous, ça va nous permettre dans un premier temps de réparer et de customiser même avec vos paires, donc les personnaliser. Mmh. Et par la suite, d'en créer à partir des vieilles. Quoi.
Mmh. Alors sur vos réseaux sociaux, il y a une photo qui m'a interpellé. Vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train de peindre une basket. Racontez-moi ça. C'est de l'upcycling
aussi? Alors j'élève mon petit garçon toute seule. Et du coup, des fois, le mercredi après-midi, le baseball, et je prends mon matos avec moi, et pendant le baseball...
Et vous peignez votre basket.
C'est ça.
Mais on peut travailler partout, c'est un des moyens aussi de ce genre de métier, c'est qu'on peut le faire finalement un peu n'importe où, c'est ce qu'on appelle du télétravail.
Alors, pas pour tous les services, bien évidemment. Parce qu'il faut des machines, voilà. Mais sinon, c'est quand même un bonus, en tout cas pour moi, pour pouvoir gérer mon temps, parce que le temps de l'entrepreneur est compté.
Je sais bien.
Donc, c'est bien.
Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi votre projet? Les prisons, c'est un des leviers que vous êtes en train d'actionner dans le développement du Moradian.
Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, la semaine prochaine, on récupère notre sac qu'on a posé depuis maintenant un petit mois. Mmh. Moi, je suis en parallèle à la recherche de ces endroits-là, des iPads ou des... Voilà. Mmh. Et il y a aussi autre chose que je fais en parallèle, c'est que je finalise mon projet pour pouvoir continuer à faire des concours, aller chercher des fonds et monter mon atelier dans Marseille. Quoi.
Monter un atelier. Où est-ce qu'on peut se produire? Où est-ce qu'on peut acheter vos produits, justement, Catherine?
Alors, dans un premier temps, comme je vous le disais, c'était des services. Mmh. Donc, on peut se rapprocher de mon site internet moradian.fr ou même de mes réseaux sociaux UJE by Moradian. Et là, je rentre tout de suite en contact avec vous. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. On fonctionne même dans la France entière. Et même, j'ai un client qui est au Portugal. C'est assez
étonnant.
Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais le but, c'est d'avoir un atelier fermé, une plateforme qui serait assez simplifiée pour le client et fonctionner comme ça. Par la suite, faire des événements en showroom.
Écoutez, pour que vous puissiez nous rencontrer. On vous souhaite tout ça, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Dans cette émission consacrée à l'économie en Arménie, mais aussi à la diaspora arménienne en France, dont vous êtes une des représentantes, Catherine. Nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous évoquerons une question qu'on a déjà un petit peu évoquée pendant les vacances de Noël, mais avec la mort du pape Benoît XVI, peut-être était-ce passé assez inaperçu. C'est la question de la culture, de la décarbonation de la culture, des événements éco-responsables dans la culture. Et nous retrouverons Olivier Covo, que je vous avais présenté dans un dossier précédent, mais aussi les acteurs de la folle journée de Nantes. Et vous verrez qu'il y a des solutions pour construire des événements éco-responsables. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur rcf.fr ou sur toutes les plateformes de podcast où vous voulez, quand vous voulez. À très bientôt. Au revoir.